Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on nous a fait.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
Bonjour Luc.
Cher Guillaume, bonjour.
Alors Luc, c'est très drôle parce que aux États-Unis, quand on veut tester la température de l'eau pour une éventuelle campagne présidentielle, on sort des livres. Et on met dans notre livre des déclarations qui sont des petits avertissements à l'un et à l'autre. Mais là, Mike Pompeo, qui a été le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump, qui pense aussi, lui, un peu, en tout cas, il y a des rumeurs à la présidence, sort un livre et là, il commence à y avoir toutes sortes de petits bouts, à tout le moins, pour vendre son livre, là, pour nous intéresser ou vendre vraiment en faire un succès, là.
Écoute, nous étions plusieurs à espérer, à attendre la sortie de ce livre parce que peu importe l'idéologie, peu importe l'orientation politique, Mike Pompeo a une carrière politique et un parcours personnel qui mérite notre attention, je pense. Ne serait-ce qu'en fonction de ses deux dernières responsabilités officielles, c'est rien de moins que le directeur de la CIA sous Donald Trump. Et il est passé de... écoute, il y a peut-être une ou deux personnes qui ont fait ça dans toute l'histoire des États-Unis. Il est passé de là à secrétaire d'État. Donc, il était au cœur d'un certain nombre d'événements et il est toujours demeuré, malgré des périodes de froid. À tout le moins, en tout cas, les médias nous rapportaient qu'ils étaient à l'occasion en froid. Il est toujours demeuré fidèle à Donald Trump. Donc, on se disait, c'est intéressant de revenir sur la carrière d'un homme comme celui-là. Puis le titre, on essaie toujours de se démarquer, c'est accrocheur. Le titre, c'est « Never give up », en abandonnons jamais. Puis ensuite, les États-Unis que j'aime. Donc, le livre est paru mardi. Bien entendu, tu l'as dit, on fait la mise en marché de tout ça, on envoie ça à des journalistes avant pour qu'on puisse se familiariser avec l'ouvrage, de sorte que dès la parution officielle, on puisse commencer à le commenter. Et mardi, les alertes sur mon téléphone, ça s'est littéralement déchaîné parce que j'avais d'alertes de la plupart des plateformes d'information, aussi bien les sources d'information plus conservatrices que les plus progressistes. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont demeurés insensibles ou qui ont passé les déclarations dont je voulais te parler sous tapis. Et il revient, écoute, c'est un événement dans une carrière, mais c'est pas banal, il revient sur l'assassinat d'un citoyen d'origine saoudienne, mais qui travaillait pour le Washington Post.
Ça, c'est Khashoggi, là, qui aurait été, selon la thèse, il avait été arrêté et découpé littéralement en morceaux, là, littéralement, par les frotteurs de MBS, le nouveau leader de l'Arabie saoudite. Là.
Voilà. Donc, écoute, ça ne s'invente pas. L'information qu'on a validée, ce dont disposent les Américains, ce sont des informations qui proviennent de l'étranger, mais validées et certifiées par la CIA, par les propres services de renseignement américains. Et ce qu'on disait pour nos auditeurs, Khashoggi est assassiné alors qu'il va chercher des papiers, il veut des formulaires pour son mariage. Sa conjointe est dans la voiture et il est en Turquie, pas en Arabie Saoudite. Il est en Turquie, mais au consulat d'Arabie Saoudite. Et il n'en est jamais ressorti. On n'a jamais retrouvé le corps d'ailleurs. T'as fait état des détails scabreux et horribles des circonstances dans lesquelles il est assassiné. Pourquoi on revient sur ça aujourd'hui, c'est que Pompeo, tout comme Donald Trump à l'époque, on a dit qu'on avait été choqué par l'incident. C'est la moindre des choses. On sait qu'avec l'Arabie Saoudite, c'est très difficile pour les Américains de naviguer parce que c'est un des alliés les plus compliqués à gérer. Faut très souvent fermer les yeux ou ignorer des choses pour aller de l'avant avec un partenaire qui stratégiquement est primordial pour les Américains. On a vu Joe Biden, d'ailleurs, qui avait promis de semoncer vertement Mohamed Ben Salman, y aller d'un fist bump, hein, point à point comme salutation. Donc, Pompeo dit quoi au sujet de ça? Il dit pas que M. Khashoggi est un bon gars. Mais ce qu'on a l'impression, ce que ça nous laisse la lecture comme impression, c'est Khashoggi a couru après. Khashoggi n'est plus un journaliste dans les mots de Mike Pompeo. Khashoggi, c'est un activiste qui ne faisait que provoquer le régime. Puis grosso modo, ben, on n'est pas dans un monde d'agneaux. Hein? Il y a un certain nombre de loups, et peut-être plus qu'on pense. Et Khashoggi a payé le prix de sa résistance au régime saoudien. Il va plus loin que ça. Non, il le discrédite quasi totalement. Et en plus, il dit, si tout ça est devenu grave, c'est de la faute des journalistes. Donc, si toi et moi, on s'offusque ou on s'indigne du fait qu'on a découpé un homme qui était en Turquie, mais que c'est une commande d'un autre pays, l'Arabie Saoudite, et que ça vient du sommet de la tête de Mohamed Ben Salman, si nous, si toi et moi, on s'indigne de ça, c'est parce qu'on est victime, bien entendu, d'un complot médiatique ou des progressistes. Parce que les progressistes aux États-Unis, les autres aiment Mohamed Ben Salman, mais les progressistes dans la bouche de Pompeo le démonisent, Mohamed Ben Salman, et en même temps sont beaucoup trop sympathiques à Khashoggi, et là c'est la cerise sur le sundae. Pour M. Pompeo, Khashoggi serait même un membre, ou en tout cas à coquiner, à la Société des Frères musulmans. Les Frères musulmans qui est une organisation qu'on a qualifiée, étiquetée comme terroriste, à plus d'un endroit sur la planète.
Donc, ceux qui pensaient que Mike Pompeo serait peut-être, rhétoriquement parlant, un personnage d'un républicain responsable, trempé dans le sens de l'État, oubliez ça, là. Lui, il veut être Trump à la place de Trump.
Ben voilà, je référais dans un texte ce matin à Is No Good, pour ceux qui, les amateurs de bande dessinée, Is No Good.
Explique-le, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaît la bande dessinée, puis ça vaut la peine que les gens la connaissent, vas-y.
Grosso modo, ce qu'il veut faire, c'est être calife à la place du calife. Alors, Mike Pompeo est devenu pour moi le Is No Good américain. Il veut être calife, il veut être Trump à la place de Trump. Mais ce que ça montre plus sérieusement, c'est qu'on a déjà évoqué ça, toi et moi. Avant, M. Trump n'est pas disparu. Dans les sondages, il est bien en selle. Ça ne veut pas dire qu'il gagnerait une présidentielle. Ça veut dire que les républicains ne peuvent pas le tasser. Dans l'éventualité où M. Trump, arrêté, accusé ou vaincu, ne serait pas là, ce que M. Pompeo fait, c'est que tu l'as mentionné sous cette formule-là tout à l'heure, il teste l'eau. Est-ce que j'ai des chances? Est-ce que j'ai des prétentions? Et en même temps, si je veux être le candidat républicain, je ne peux pas me mettre à dos. Je dois trouver une façon de courtiser les Trumpistes. Et il y a une recette Trump. Donc, désinformer, mentir, exagérer, insulter, accuser les médias, c'est une formule éprouvée. M. Trump a montré qu'il la maîtrisait et qu'on pouvait parvenir à un certain seuil de réussite. Pompeo joue exactement dans les mêmes eaux. Moi, je pense qu'on n'a pas le même genre de bête politique. Je pense qu'il a une stature puis une expérience politique beaucoup plus importante que M. Trump. Mais on voit en tout cas que la marque Trump ou que le Trumpisme, ça va continuer à sévir et ça va continuer à être un passage obligé pour ceux qui vont prétendre au trône républicain éventuellement.
Ouais, il y a des... Ronald Reagan doit se tourner dans sa tombe plusieurs fois en voyant ça.
Ah, j'y ai pensé régulièrement.
Oui. C'est fou, ce parti-là aujourd'hui, très, très Ronald Reagan, de Rhino, de faux républicain. C'est pas un vrai. C'est quand même assez extraordinaire.
Woke. Oui. Ronald Reagan est un woke,
Guillaume. Écoute, je veux qu'on parle de, et la chose était un peu comique, c'était, je voyais ça dans les manifs, libérer les léopards. Vous n'êtes pas à National Geographic, non. C'est le conflit en Ukraine. Et là, il a fallu un peu tordre le bras des Allemands pour qu'ils finissent par laisser d'abord les autres fournir des chars d'assaut. Là, les Américains vont envoyer aussi des chars d'assaut, mais c'est pas du tout les mêmes. Tous les chars sont pas égaux entre eux. Ils fonctionnent vraiment au kérosène, là, presque au carburant d'avion. Puis, en fait, je te poserais la question comme ça, Luc. Les Russes ont des centaines de chars d'assaut. La Pologne se propose d'en envoyer 18. Peut-être que tout ça ensemble, ça va en faire 50-60, là. Ça va-tu vraiment changer la donne ou on est dans la symbolique?
Non, mais je pense qu'on est plus que dans la symbolique. D'abord, c'est important de souligner la rapidité avec laquelle l'Allemagne s'est retournée. Ça veut dire que dans les rencontres, les tractations, puis soyons clairs, il y a eu des bras de fer entre les alliés. Les Allemands ont obtenu, semble-t-il, ce qu'ils voulaient des Américains. Pas plus tard qu'en début de semaine et même la semaine dernière, M. Austin, qui est le secrétaire à la Défense, avait dit « les fameux Abrams auxquels tu référais, les chars américains, on n'enverra pas ça en Ukraine, ça ne sert à rien, c'est trop capricieux, c'est pas pour ce genre de terrain. » Et tu faisais référence, entre autres, à la problématique d'alimentation en carburant. Et soudainement, les Américains se retournent et on en envoie ces fameux chars, les Abrams. Donc, ça veut dire que les Allemands ont dit « OK, on a compris, là, on va envoyer les Léopards. » Et surtout, on va permettre aux pays qui disposent de Léopards, on va leur donner l'autorisation d'acheminer des chars. Tu référais donc à la Pologne, c'est probablement le pays le plus proche. Il y a la Finlande également qui dispose de Léopards. Ça va arriver sur le terrain.
Le Canada en a, les nôtres, je pense qu'on en a quelque chose comme 80. Mais la grande question, c'est, il y en a combien des Léopards canadiens qui roulent encore, qui sont pas sur les blocs, là?
Qui fonctionnent. Donc il y a d'abord on sentait un foie puis une certaine division. On semble être revenu à une forme de cohésion. Pourquoi ça change aussi vite que ça? Là, on est un peu dans les projections, mais assurément, on sait que les Russes préparent une offensive pour le printemps. Les chars, on s'entend, toi et moi, pour dire est-ce qu'il y en aura suffisamment? Puis d'un autre côté, ils arriveront pas pour être opérationnels pour la fin de semaine ou pour la semaine prochaine. Le temps qu'on achemine ça, qu'on se les approprie puis qu'on les rende vraiment opérationnels sur le terrain, on parle de plusieurs semaines. Entre autres, pour les Abrams, les Américains avaient bien souligné, c'est très difficile de s'approprier le fonctionnement des Abrams.
C'est comme n'importe quoi. Il y a un cours pour apprendre à manipuler ces choses-là.
Voilà. Et ce que je remarque, donc, je disais, soit on sent que l'Ukraine peut progresser, puis peut-être même éventuellement parvenir à la victoire, ou encore on veut s'assurer que cette offensive russe, on puisse l'endiguer. Mais j'ai même lu tout à l'heure, avant d'entrer en onde, écoute, les Pays-Bas offrent ou évoquent la possibilité maintenant de mettre des avions dans le ciel, et on parle de F-16. Donc, des choses qu'on n'a jamais
imaginées. Ça change la donne beaucoup, là. Là, on est ailleurs.
Énormément. Énormément. Et la réaction du Kremlin, c'est pas fait attendre. Ce qu'on a dit très, très rapidement, c'est écoutez, c'est une solution, c'est une mauvaise solution. Puis bien sûr, on va référer à une escalade. Et cette escalade-là, elle est bien réelle. Bien sûr, M. Poutine peut pas dire j'ai rien à voir là-dedans, tout est de la faute des pays de l'OTAN ou des alliés de l'Ukraine. Mais reste donc qu'on sent qu'il y a un mouvement très, très important. Est-ce que ça se déroulera avant cette fameuse offensive du printemps? Mais assurément, on a changé de cap. On a changé de stratégie ou de direction. Il y a quelques semaines, avant la période des fêtes, toi et moi, on s'entretenait et on disait, on sent la réserve. Hein, on finance de l'argent, mais on n'est pas prêt. On envoie de l'argent, puis on envoie quelques missiles, mais on ne va pas plus loin.
Ça, on voulait
quand on est rendu à évoquer des F-16.
On voulait que l'Ukraine ne perde pas. Là, penses-tu qu'on a franchi en disant, non, maintenant, il faut que l'Ukraine gagne? C'est pas la même chose, là.
Ben, soit on craint vraiment, on a des informations de nos services de renseignement qui disent que l'offensive russe peut être pire que ce qu'on avait envisagé. Elle est peut-être plus dommageable que ce qu'on envisageait. Ou encore, ce que tu viens d'évoquer, c'est un autre scénario possible. On pense que l'Ukraine peut gagner. Et maintenant, on est, j'aime pas l'expression, c'est anglophone, mais on est « all in ». On y va au maximum de ce qu'on peut mettre à la disposition de l'Ukraine sans être nous-mêmes sur le terrain.
Alors, on va voir ça. Écoute, on va se reparler de cet enfant là de 6 ans qui est devenu lui-même meurtrier. Là, on n'a pas assez de temps, mais je dis aux gens, c'est sûr qu'avec Luc, on va en reparler parce que les gens nous ont écrit là-dessus. C'est une autre tragédie.